Dien Bien Phu, voilà sans doute la défaite la plus douloureuse pour l'armée française sur la période contemporaine. Elle marque la fin de la présence en Indochine au terme d'une longue bataille qui se déroule sur plusieurs mois. En novembre 1953, les troupes françaises et leurs alliés locaux installent avec audace une base aéroterrestre dans une vallée isolée. Mais ce poste avancé se transforme en camp retranché qui sera bientôt attaqué puis pris d'assaut par les forces du Viet Minh. Il faut se rendre le 7 mai 1954. Cet échec s'explique par de nombreuses raisons, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la logistique qui apparaît essentielle dans le rapport de force. Nous continuons donc notre série avec l'école de guerre et je suis en compagnie du commandant Jonathan Gonneau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Dien Bien Phu, cette bataille commence par une décision originale, dirons-nous, assez moderne, contemporaine des forces françaises et de leurs alliés vietnamiens. C'est celle d'une opération parachutiste et nous sommes déjà dans une problématique de logistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là?
Tout à fait. Donc, Dien Bien Phu, on est sur un choix audacieux du commandement français, donc présent en Indochine. Indochine qui, à l'époque, regroupait effectivement le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Le conflit dure depuis 9 ans, quand le commandement décide de mener une opération aéroportée en prenant pied sur une vallée isolée. Effectivement, le nom de la vallée, c'est celle de Dien Bien Phu, d'où le nom plus tard de la bataille. Et le but du commandement est donc d'insérer un dispositif au large, hein, parce que nous sommes à 300 km d'Hanoï, au nord-ouest d'Hanoï, pour après, certaine manière, ériger une position qui permettrait d'avoir la posture du hérisson, assez imagé, qui permettra donc de contenir la menace du Viet Minh et même, on va dire, de la blesser, de la heurter, de l'amoindrir, qui, elle, viendrait par des assauts contre le camp, qui seraient donc des assauts non décisifs, engendrer l'attrition, finalement, de son potentiel de combat, se blesser, on va dire, sur les pics du hérisson, pour reprendre la métaphore.
Il y a un effet de surprise, donc c'est un avantage. Il y a de nombreux moyens mis en œuvre, mais il y a aussi des faiblesses, des vulnérabilités dans ce dispositif.
Tout à fait. Le dispositif, donc la décision de se porter à Dien Bien Phu fait écho à une précédente manœuvre qui avait été menée à Nassan, qui était, d'une certaine manière, à mi-distance entre Dien Bien Phu et Hanoï. Donc on va diviser les échelles par deux, en prenant plutôt celle de 150 km, et qui, elle, c'était un peu le paradoxe, avait porté ses fruits. On était sur, à l'origine, un camp retranché, qui après est devenu une base aéroterrestre. Et donc le commandement a décidé de reproduire ce dispositif-là, cette fois-ci de manière plus étendue, en doublant donc les distances, en projetant donc un dispositif français et allié, puisqu'on est sur une coalition avec bien sûr des Vietnamiens qui participent au conflit, des tirailleurs thaï et également des tirailleurs nord-africains. Et donc cette fois-ci de les projeter un peu plus loin, pour bloquer d'une certaine manière l'axe qui mène un petit peu au Laos, parce qu'on est vraiment sur la frontière du Laos avec la Chine qui n'est pas très loin. Donc d'ailleurs pour être une épine pour le Viet Minh. Et par contre, les contraintes sont beaucoup plus fortes, parce que là où Nassan, à l'origine, on avait pu bénéficier d'une projection par d'autres moyens que la voie aérienne, pour Dien Bien Phu, le vecteur aérien sera le seul qui sera en mesure de pouvoir permettre la projection des forces, la projection également du matériel et de ce qui va servir à pouvoir densifier les infrastructures. Et donc, dès le début, ça va être à la fois ce qui va générer la surprise que vous évoquez, cette audace, mais qui va également, dès le début, porter les germes des faiblesses qui vont s'accentuer plus tard.
Il faut donc un pont aérien. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Des pistes? Des largages?
Les deux. Les deux. Un pont aérien, donc dans l'image qui est commune, hein, on pense au pont aérien qui a été mis en place pour Berlin et qui a permis ce ravitaillement-là. Là, on est sur vraiment les deux. Le camp dispose de deux pistes qui vont être construites par les forces françaises au niveau de la vallée. Et derrière, elles sont complétées par du parachutage massif, donc d'hommes et surtout de matériel. Si vous avez la maîtrise de vos pistes et que vos pistes sont sûres, vous allez privilégier ce mode-là, puisque déjà, il est quand même plus rationnel en termes de dépenses de moyens. Mais si ces pistes qui dit donc « sans votre force, deviennent votre faiblesse », parce que derrière, elles vont attirer les feux de l'adversaire, qui va bien sûr les identifier comme tels. Et bien, il vous restera le moyen, cette fois-ci, de l'aérolargage, de la livraison par air dans le jargon, pour pouvoir arriver à ravitailler les forces en présence.
Et c'est ce qui va se passer, parce que bien sûr, le Viet Minh se rend compte de ce point de faiblesse et va attaquer les pistes, attaquer aussi les postes de défense de ces pistes. Comment organise-t-il sa stratégie ?
La stratégie de Dien Bien Phu se passe en plusieurs temps. Vous avez effectivement commencé par présenter la première, cette opération aéroportée, l'opération Castor, donc du 20 novembre 1953. Derrière, elle va permettre, déjà par la surprise, de s'emparer de la position, de commencer à la fortifier avec des ravitaillements par air. Et le Viet Minh, lui, pendant ce temps-là, il va également se préparer à mener l'offensive sur le camp. Il va le choisir derrière pour pouvoir porter un coup décisif aux forces françaises. Là où les Français, de cette manière, l'attendaient plutôt au niveau du bassin d'Hanoï, pour pouvoir emporter cette bataille décisive qui pourrait changer le cours de la guerre, ou plutôt l'accélérer, diront certains, parce que le cours de la guerre était quand même déjà bien amorcé, notamment en perspective des accords de Genève qui commencent à se profiler. Donc, il va préparer pendant tout le temps où les Français vont fortifier leur camp. Lui, il va préparer sa manœuvre pour justement porter des coups directs et décisifs au centre de gravité français, qui est donc cette capacité logistique à pouvoir être ravitaillé, ces pistes notamment, vous l'avez très bien dit. Et donc, pendant que le Français, lui, à la vue, on va dire, du Viet Minh, parce qu'il peut être observé des positions. Dien Bien Phu est donc sur une vallée qui est entourée d'une multitude de collines, qui sont des points importants à tenir, et sur lesquels l'adversaire est en mesure de pouvoir se renseigner sur la manœuvre française. Le Viet Minh va lui mener dans le même temps une manœuvre logistique souterraine. J'utilise le terme de souterraine, c'est plutôt sous la vue, sous la connaissance du renseignement français, qui va générer à son tour, comme il y avait pu avoir un élément de surprise pour Castor en novembre pour les Français. Là, au déclenchement de la crise, au déclenchement de la bataille, finalement, le 13 mars 1954, c'est le Viet Minh qui, lui, va générer une surprise parce qu'il aura été capable de mener une logistique qui lui aura permis de pouvoir porter des coups dont la force dépasse celle qui était attendue par les forces françaises.
Et justement, comment le Viet Minh organise-t-il sa chaîne d'approvisionnement ?
Eh bien, c'est d'une certaine manière le retour du pot de fer contre le pot de terre, ou le pot de terre contre le pot de fer. On a d'un côté les forces françaises qui vont utiliser des moyens technologiques massifs avec l'aviation moderne, avec des méthodes qui sont audacieuses et nouvelles, hein, les manœuvres aéroterrestres, aéroportées, qui sont très récentes. Elles ont été mises en place dans les années 30 par les Italiens et après par les Allemands, puis les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Là, on a finalement le progrès technologique d'un côté pour la partie française, où on va mettre des moyens très récents du progrès technique. Et en face, le Viet Minh, qui lui va avoir une manœuvre tout à fait différente, qui va utiliser des moyens assez rudimentaires. On a l'image du coulis avec son vélo. Certes, il va utiliser des moyens routiers, des camions, beaucoup de camions issus du soutien chinois et soviétique. Il va également utiliser du ravitaillement par les rivières. Et il va faire tous ces derniers kilomètres avec un nombre vraiment très significatif. On parle de 200 à 250 000 porteurs qui, eux, vont acheminer tel un flux incessant, tel l'eau de la rivière, les forces Viet Minh qui sont tout autour et qui commencent à enserrer la vallée de Dien Bien Phu.
Il y a donc un rythme d'approvisionnement différent. D'un côté, vous parlez de flux, et de l'autre, ce sont des opérations ponctuelles.
Alors, opération ponctuelle pour les forces françaises qui effectivement dépendent de la disponibilité, de la météo, parce que le vecteur aérien a effectivement ses avantages, notamment la capacité d'élongation et sa capacité à pouvoir soutenir en dehors d'une portée de bras habituelle. Mais là également ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est qu'il dépend déjà de la disponibilité des machines. Il y aura un effort qui sera fait de manière très conséquente par l'armée de l'air en ce domaine-là. Mais il dépend également de la météo et il dépend aussi de la capacité d'emport des vecteurs de l'époque. On est sur 2,5 tonnes pour des C-47 et on est sur 6 tonnes pour des C-119 qui sont les machines, déjà des machines américaines qui sont mises à disposition, on va dire, de l'armée de l'air française. Là où on est sur finalement des quantités beaucoup plus faibles, hein, puisque pour reprendre cette image du porteur à bicyclette, on était sur du 250 à 300 kilos, mais un flux incessant, qui va permettre finalement ce ravitaillement sans cesse des forces Viet Minh.
Alors les Français vont perdre leurs aéroports, pourrait-on dire, d'une certaine façon, et vont devoir se contenter de parachutage. Qu'est-ce que ça change, cette nouvelle donnée, dans la bataille ?
Alors, ce que ça change beaucoup de choses. C'est déjà, vous n'êtes plus maître du terrain, donc vous ne décidez plus de ce que vous voulez faire. Donc, pour reprendre un terme militaire, vous avez perdu l'initiative dans le domaine. Donc, vous commencez à subir. Vous allez subir les assauts adverses. Perdre les pistes, alors ça s'est fait de manière assez progressive. Dans un premier temps, les centres de résistance, parce que c'est le terme un peu, donc les collines qui permettaient de protéger la piste principale, eux vont commencer à tomber dans les trois premiers jours de la bataille. Donc, on considère que le 17 mars, ils sont tombés. Donc, à partir de ce moment-là, le Viet Minh est en mesure de pouvoir bouger son artillerie et de pouvoir frapper directement la piste du camp principal, parce que j'indiquais qu'il y avait effectivement deux pistes, une au camp principal, une qui est bien plus au sud, donc sur le camp, le centre de résistance Isabelle. C'est pas pour autant que les Français vont arrêter d'utiliser la piste, malgré le fait qu'elle prenne des coups. Donc ça montre aussi quand même l'audace et la témérité des forces françaises qui vont continuer à l'utiliser en dépit du danger pour pouvoir justement maintenir cette artère vitale pour le camp. Et au fur et à mesure des coups qui vont être de plus en plus nombreux, effectivement, on va passer sur une phase où elle sera utilisable uniquement de nuit avec des subterfuges pour après arriver à un moment où, vers fin mars, où la piste ne sera plus du tout utilisable par les forces françaises, et ce qui va contraindre les forces françaises à utiliser le mode du parachutage. Et bien, le parachutage, c'est la même chose. C'est si vous pouvez voler à basse altitude, vous allez pouvoir être précis dans votre parachutage, donc et pouvoir assurer que l'intégralité de votre livraison va bien arriver au destinataire premier. Et au fur et à mesure du danger, vous êtes obligé de voler plus haut, et si vous volez plus haut, votre précision s'en ressent, et à un moment vous arrivez, vous commencez à ravitailler de manière involontaire l'adversaire, voire même l'intégralité de votre cargaison peut finir chez l'adversaire, et donc finalement vous renforcez non pas vos amis mais votre adversaire.
Et par rapport au moral des troupes, est-ce que ça a une incidence?
Ça a une incidence déjà majeure, parce que la première, c'est les blessés. Quand vous êtes sur un camp où le seul moyen d'acheminement, c'est l'avion, alors vous pouvez renforcer en part du parachutiste que vous allez pouvoir jeter d'un avion à entre 150 à 300 mètres. Mais par contre, vous ne pouvez plus évacuer vos blessés. Donc, quand vous ne pouvez plus évacuer vos blessés, déjà, vous allez augmenter mécaniquement votre taux de mort, parce que les blessés ne pourront pas être traités dans des structures idoines. Ça va jouer sur l'état des combattants, parce que déjà, de savoir s'ils sont blessés, leurs chances de survie se réduisent. En même temps, vous êtes sur une zone qui est très réduite, parce que on est sur à peu près 10 km à la verticale et 5 km à l'horizontale au plus large. Donc on est vraiment sur des zones qui sont très recentrées. Donc finalement, vous allez continuer à avoir les camarades qui sont blessés autour de vous, qui vont, les cris, la douleur. Pour le moral, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir à cette époque-là.
Alors on dit parfois que l'intendance suivra et que c'est finalement une question secondaire. Et du coup, en étudiant cet exemple de Dien Bien Phu, on se rend compte que la logistique est au cœur des préoccupations. Vous qui exercez ce métier, quel est votre regard sur ce fait historique et qu'est-ce que ça peut vous apprendre ?
Alors, effectivement, c'est une phrase très française, c'est une phrase qui est très entendue, l'intendance suivra. On a déjà beaucoup de mal à savoir qui l'aurait vraiment tenue. Elle a été prêtée à tort au général de Gaulle, qui l'avait, on va dire, balayée d'un revers de la main lors de l'entre-deux-tours en 65 de mémoire. Mais effectivement, ce que ça permet de prendre en compte, c'est que sans logistique, sans capacité à soutenir vos forces, c'est très difficile pour une force de tenir, d'aller loin et vite, et de tenir dans le temps. Donc même si, loin de nous, l'idée de pouvoir avoir la prétention de dire que l'importance de la logistique concurrence les armes de mêlée, sans une logistique dimensionnée, l'arme de mêlée n'ira pas loin. En tout cas, ne pourra pas porter ses effets. Donc on a plutôt l'habitude d'utiliser l'image, on va dire, d'huile, de lubrifiant, parce que déjà, c'est ce que la logistique doit fournir. Mais voilà, ça permet au rouage de pouvoir fonctionner mieux et de durer dans le temps, et surtout de pouvoir, on le voit sur une opération telle que Dien Bien Phu, de pouvoir ne serait-ce que tenir et de pouvoir emporter finalement la décision finale.
Et il est important d'estimer à leur juste place à la fois sa propre logistique et la logistique de l'adversaire, qui était peut-être aussi une erreur à Dien Bien Phu.
Oui. Ça force à l'humilité. Donc déjà sur ses propres moyens, et surtout de ne pas mésestimer les moyens de l'adversaire. L'analyse que vous évoquez, qui est très juste sur les capacités logistiques des Français vis-à-vis du Viet Minh, n'est qu'une déclinaison finalement aussi de sa capacité opérationnelle. Derrière, bon, on ne va pas utiliser le terme de condescendance, mais voilà, de considérer que l'adversaire ne serait pas en mesure de pouvoir mener tel effet opérationnel, d'avoir telle capacité logistique. Et c'est par ce sentiment, peut-être induit par du renseignement, voilà, il y aurait beaucoup à dire dessus, qui a contribué à des erreurs d'analyse fondamentales. Et donc là, je rebondis sur votre précédente question. La logistique doit faire partie de toutes les étapes de l'analyse de la mission et ne pas juste être considérée au moment où on arrive aux considérations logistiques pour dire bah, comment on fait maintenant. Voilà. Dès la conception de manœuvre, elle doit être prise en compte.
Et pour finir, est-ce que vous avez en tête un théâtre d'opération récent ou actuel où cette problématique est particulièrement présente ?
Oui, donc là, je vais également poursuivre dans la discussion menée par mes camarades. La bataille d'Afghanistan, notamment la fin de la guerre d'Afghanistan, derrière a permis également de mettre en exergue cette problématique de l'acheminement. Voilà, l'acheminement, c'est souvent ce qui est la partie la plus visible de l'iceberg logistique, parce que bah, derrière, c'est celui qui concerne la capacité à pouvoir projeter des forces, à également pouvoir les désengager. Et l'Afghanistan, on est sur l'autre travers, on est sur la capacité finalement à pouvoir désengager voilà, des forces rapidement d'un théâtre. Donc c'est ce pont aérien qui a été mis en place effectivement à l'été et qui a permis de pouvoir retirer...
À l'été de 2021, c'est tout récent.
Tout à fait, oui. À l'été 2021, de retirer les forces occidentales ainsi que ressortissants et ayants droit d'un pays qui était emporté par la guerre.
Eh bien, un grand merci. Nous finissons donc avec Diane Benfou, cette série sur les batailles avec l'école de guerre. Merci et à bientôt.
Merci à vous.